repéré, ou j'ai cru repérer en tout cas un paradoxe, à savoir que Simone Veil, qui écrit cet ouvrage magnifique en 1943 alors qu'elle est à Londres dans les forces françaises libres, qu'elle s'est fait rapatrier de New York, donc écrit ce livre que Camus a intitulé L'Enracinement, mais qui en fait s'intitule Prélude à une étude des obligations envers l'être humain. Donc Simone Veil a diagnostiqué dans ce livre la maladie dont souffre à son avis l'époque comme le déracinement. Elle va proposer un certain nombre de remèdes à cette situation, qui est le déracinement ouvrier, le déracinement paysan et le déracinement national. Et elle va exprimer le besoin le plus important, mais aussi le plus méconnu et le plus difficile à ses yeux à définir, qui est le besoin d'enracinement de l'âme humaine, celui d'enracinement dans un milieu, dans une culture, dans un sol. Et ce qui m'a frappée, c'est le fait que Simone Veil m'est apparue comme une déracinée elle-même. Donc il y a un déracinement géographique entre les années 40 et 43. Il y a d'autre part un impossible enracinement dans l'inspiration chrétienne, alors même qu'elle n'est pas ancrée dans la tradition juive dont sa famille est issue, si ce n'est elle. Il y a un autre niveau du déracinement de Simone Veil qui serait plutôt, disons, un déclassement, puisque Simone Veil décide en 1934 volontairement, délibérément, de rejoindre la condition ouvrière alors qu'elle est issue d'un milieu bourgeois, cultivé et intellectuel.
Est-ce qu'on peut parler d'une autre transformation quant au passage du pacifisme à un engagement de type révolutionnaire ?
Disons, elle est pacifiste, oui, et ce pacifisme est certainement hérité de son maître Alain, dont elle a suivi les cours en Cagne pendant 3 ans au lycée Henri IV. Alain était pacifiste, donc Simone Veil l'est assez longtemps. Elle se le reprochera amèrement, puisque je crois que c'est dans les écrits de Londres, en 43, à la fin de sa très courte vie, qu'elle parlera de son erreur criminelle d'avant 39. Mais dès 36, par exemple, elle va s'engager dans la colonne du militant anarchiste Durruti. Elle n'y restera que brièvement, mais elle en tire encore une fois la conclusion que décidément la volonté de puissance imprègne jusqu'à la Révolution. Elle revient extrêmement déçue de cette expérience et dès lors, le mot de révolution lui apparaît comme un opium du peuple, ainsi qu'elle le dit.
Pouvez-vous revenir sur sa rencontre spirituelle déterminante avec le Christ ? Comment cela s'est déroulé ?
Elle n'a jamais cherché Dieu, elle n'a jamais lu de mystique, elle n'est jamais entrée dans une église, n'a jamais prié. Mais au sortir de son expérience d'usine, elle fait un voyage au Portugal. Et là, elle voit une procession de femmes de pêcheurs chantant des cantiques portugais infiniment tristes. Et elle est touchée, elle a le sentiment que le christianisme est la religion des esclaves et qu'elle ne peut pas ne pas y appartenir. À partir de ce moment-là, elle se met à réciter le pater. Par exemple, lorsqu'elle est ouvrière agricole, la récitation du pater allège, disons, ses souffrances physiques. Il y a un deuxième contact qui a lieu, lui aussi, juste après son expérience agricole, lors d'un voyage en Italie, à Assise, à la chapelle Santa Maria degli Angeli. Quelque chose de plus fort que moi, dit-elle, m'a poussée à m'agenouiller. Et enfin, le troisième contact, un an plus tard, en 1938, se fait à l'occasion des offices de la Pâque qu'elle suit à l'abbaye de Solesmes, où un poème du poète métaphysicien Georges Herbert, un poème qui s'intitule « Love », lui fait encore une fois découvrir les vertus du christianisme, et en récitant ce poème, elle s'aperçoit qu'il a la vertu d'une prière et qu'il la soulage encore une fois, puisque à ce moment-là, elle souffrait de maux de tête absolument infernaux. Quatrièmement, la révélation de l'Eucharistie, ce qu'elle exprime dans un très très beau texte qui est le prologue à la connaissance surnaturelle, où l'Esprit médecin lui demande de la suivre, la fait manger du pain, boire du vin, puis la rejette. Donc elle a le sentiment de son indignité, le sentiment qu'il y a erreur sur la personne, que le Christ est venu la chercher mais qu'elle n'en est pas digne parce qu'elle n'est pas baptisée.
Comment on pourrait qualifier l'originalité de la pensée de Simone Veil ?
Peut-être que l'originalité consiste là, dans le fait que Simone Veil en appelle à ce qu'elle nomme elle-même une sainteté nouvelle. Il faut insuffler une inspiration nouvelle à la France. Et cette inspiration nouvelle ne peut être fournie que par des hommes qui auraient en vue le bien absolu, faire descendre le bien sur terre. Donc c'est à une théologie politique plus qu'à une réelle politique que Simone Veil en appelle. Ces saints doivent être animés, dit-elle, de l'esprit de pauvreté spirituelle, où l'on retrouve, me semble-t-il, je crois, les idées de Maître Eckhart, notamment dans le Sermon 52, « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est en eux ».